Bonjour à tous et bienvenue sur CHU 89.1 FM. Il est 7h passé de 10 minutes. Vous nous écoutez ce matin dans l'émission du matin. Je suis avec trois personnes aujourd'hui. Denis.
Salut, bonjour à tous.
Une invitée, Gaëlle.
Bonjour.
Et Marianne, toujours.
Bonjour tout le monde.
Alors, aujourd'hui, le thème de la semaine sera, a déjà été un petit peu développé lundi et mardi, et sera le thème de la nature et du plein air.
Et ouais, nature et plein air. Bon, alors je sais pas si on a tous trouvé des chroniques très très en relation avec ça, mais c'est à peu près ça, ouais, tout à fait. Je sais pas.
Nature, plein air, environnement aussi, un petit peu d'environnement. Donc.
Exactement, enfin on vous parlera d'un petit peu de sujets vastes et divers et variés, dirons-nous, mais qui seront tous reliés à la nature, et c'est sûr, vous apprendrez des choses aujourd'hui si vous nous écoutez, donc restez à l'antenne. Évidemment. Alors, on va commencer tout de suite par le plus simple, la météo. Alors, actuellement, il fait 12 degrés à Ottawa. 17 degrés, pardon. Ok, il fait 17 degrés à Ottawa. La météo a augmenté de 5 degrés depuis une demi-heure. un peu bizarre, mais... le maximum pour la journée sera de 28 degrés. On va avoir du soleil toute la journée. Jeudi ensoleillé, maximum de 32 degrés. Vendredi ensoleillé, la température augmente encore avec un maximum de 35 degrés. Samedi, on aura alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 32 degrés. Dimanche, il devrait y avoir de la pluie. Et puis lundi, mardi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 30 degrés.
Bon bah c'est parfait quoi. En gros, il va juste pleuvoir pour le dernier jour du Blues Fest alors que pour l'instant, il a toujours pas plu au Blues Fest.
Exactement.
C'est impressionnant.
Impressionnant, ouais. Alors parlant d'actualité, moi j'avais une exposition à vous présenter. Alors c'est une exposition qui se situe au Centre d'artistes voix visuelle. C'est un centre qui est au 81 avenue Beechwood du côté donc de Vanier. Alors c'est une exposition qui met en scène deux artistes. Alors Roger Proulx. OK. Ça s'écrit P R O U L X. D'où la difficulté de le prononcer. Donc Roger Proulx, qui est un photographe, et Eva Quintas, corrige-moi si je ne l'ai dit mal, Marianne. Voilà,
okay. Mystère.
Mystère, on ne sait pas. Qui a fait plus une exposition audiovisuelle. Donc mélange donc de son et de vidéo.
D'accord. C'est des films et tout qui passent, c'est ça?
C'est ça, exactement. Alors, donc l'exposition, donc c'est en fait c'est comme si c'était deux petites expositions côte à côte. Donc Roger Proulx, en fait, c'est une série de photos avec où toutes les photos ont été prises avec un paysage d'automne ou de fin d'été. En fait, c'est un paysage très naturel, donc c'est bien, ça rentre dans notre thème. Donc c'est des forêts ou des lieux. Qui ressemble, enfin, des prairies, des espaces vraiment très naturels. L'homme est présent dans chacune des œuvres, et l'œuvre de l'homme, si je peux dire ça de cette façon, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui a été conçu par l'homme, qui est présent dans la photo, et en fait, le but un petit peu, enfin, ce que j'en ai compris, c'est de montrer un petit peu que l'homme bouleverse le paysage. Alors, c'est des photos qui ont été retouchées, et qui sont retravaillés par derrière et qui ont un très bel aspect visuel en plus de leur aspect émotionnel, dirons-nous. Et alors c'est l'homme en tant que humain, hein, c'est pas l'homme en tant que personne de sexe masculin. Voilà, et alors à côté, il y a Eva Quintas qui a quelque chose de tout à fait différent. C'est donc une vidéo qui est sur trois écrans. Au centre, il y a une scène de ravissement entre des hommes et des femmes, et des voix en français. À gauche, une fille qui se promène sur internet et sur des sites de réseautage. Et à droite, un garçon qui fait la même chose. Et en fait, on voit un peu leur évolution, enfin leur cheminement sur internet. Et alors en fait, les trois vidéos sont censées avoir des points en commun et se ressembler. J'ai pas trouvé tellement ça, mais peut-être que...
Alors, j'ai l'impression que t'as préféré l'exposition de photos à l'exposition vidéo, non ?
Bah disons que l'exposition de photos, elle est un petit peu plus facile à comprendre, ouais. Je pense. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'en ai ressenti. Mais, bah je sais pas, l'exposition de vidéos, allez la voir aussi, vous trouverez peut-être des choses que je n'ai pas vues, enfin, j'espère.
Si vous restez plus longtemps, si vous avez le courage.
Voilà, alors je sais pas si vous connaissez le centre d'artistes voix visuelle, en fait vous attendez peut-être un grand bâtiment. En fait non, c'est une toute petite maison.
C'est où ?
C'est au 81 avenue Beechwood, c'est à Vanier.
D'accord.
C'est juste de l'autre côté de la rivière Rideau par rapport à Ottawa.
Ok.
Juste après le pont.
Ok.
Voilà. Et en fait c'est une toute petite maison. Et c'est à l'étage d'une maison, donc en fait il y a juste deux pièces. Il y a une pièce avec les photos de Roger Proulx et une pièce avec les vidéos. D'accord. Et en dessous il y a un salon de thé, donc si vous voulez aller y faire une petite pause.
Est-ce que les deux expositions sont quand même plus ou moins en relation, du style c'est le même thème ou on pourrait penser ça, enfin, ou c'est juste un hasard qu'elles soient là toutes les deux en même temps ?
En fait moi j'ai trouvé aucune relation entre les deux expositions.
Et pourtant ils les présentent en même temps.
Mais elles sont présentées en même temps, ouais.
Ah.
Voilà, donc exposition assez petite, assez rapide, c'est assez rapide de faire le tour, donc je vous invite à y aller si
gratuit.
Vous passez dans le coin, et c'est gratuit, oui.
Bah c'est pas mal.
Donc c'est ouvert du mardi au samedi de 10h à 4h il me semble, de 10h à 16h. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous passez dans le coin, parce que bah, ça vaut quand même toujours le coup.
Mmh. Même si on comprend pas tout.
Même si on comprend pas tout, peut-être que vous comprendrez plus que moi et... Dans ce cas-là, j'accepte vos commentaires avec plaisir.
Très bien. Eh bien, merci JB.
Donc,
sur quoi est-ce qu'on enchaîne ? Est-ce que...
Donc, je propose qu'on fasse une petite pause musicale et puis on se retrouve juste après avec ta chronique. Tu vas nous parler des éoliennes, c'est ça ?
Je vais vous parler des éoliennes. Parce que je me suis dit nature, ça ne m'a pas donné d'idées. Donc, éoliennes, ça m'a donné des idées. On va faire un tout petit peu de maths.
Et bah alors on se retrouve juste après ça, à tout de suite sur CHUO, ne quittez pas. Voilà, à l'instant, c'était les Handclaps avec leur chanson Trop tard, tirée de leur album Cliché, qui vient tout juste de sortir, si je ne me trompe pas. Denis, c'est à toi.
C'est à moi. Alors, une petite chronique sur les éoliennes. Alors, j'ai eu envie de vous parler des éoliennes. Ça m'est venu comme ça, en fait. Parce que j'avais déjà étudié ça un peu. Donc, je vais essayer d'avoir une approche un peu plus mathématique. On va parler rendement. On va parler est-ce que c'est bien, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien, tout ça. Alors, bon, déjà, on va faire un petit peu d'histoire. En fait, les éoliennes, on a vraiment commencé à développer ça. Ça fait à peu près 200 ans qu'on fabrique des moulins, etc., etc. Enfin, des moulins même plus longtemps, mais 150 ans qu'on a eu l'idée de faire de l'électricité à partir d'un moulin.
Il fallait déjà savoir faire de l'électricité.
Hein. Voilà, et donc il fallait faire une dynamo, tout ça, tout ça. Et mais vraiment, le départ de l'énergie éolienne, à partir du moment où on a commencé à vraiment fabriquer, à réfléchir à comment ça allait être efficace, c'est dans les années 80, après la crise du pétrole, où on s'est dit que bientôt on n'allait plus avoir de pétrole, et qu'il fallait trouver un autre moyen de faire de l'électricité. Donc voilà, et est-ce que vous savez vraiment comment ça marche une éolienne? Parce que, genre, j'imagine que tout le monde voit ce que c'est, là, un truc qui tourne et tout, ça fait du courant, mais genre, qu'est-ce qu'il y a dans la petite boîte qu'il y a au-dessus du mât, là?
Des moteurs.
Alors, c'est pas des moteurs, c'est l'inverse, une génératrice. Donc un moteur, ça transforme du courant en puissance, et ben là, c'est l'inverse. Une génératrice, ça va transformer de la puissance en courant.
Oui, mais c'est la même chose, en fait.
Ouais, mais c'est quand même pas construit tout à fait pareil. C'est-à-dire, tu pourrais pas faire du vent avec une éolienne simplement en la branchant.
Ok, et il n'y a pas de moteur pour faire tourner l'éolienne?
Alors, si, il y a aussi un moteur qui oriente l'éolienne dans le sens du vent. Parce qu'il y a une petite girouette au sommet de l'éolienne, de façon à voilà, qu'elle soit bien dans l'axe et qu'elle prenne le max de vent possible.
Du coup, on met une génératrice pour fabriquer de l'électricité pour faire tourner le moteur.
C'est ça, sauf que le moteur, il consomme beaucoup moins d'électricité que ce que produit l'éolienne, évidemment. Il y a aussi des petits moteurs qui vont orienter les pales. Parce que les éoliennes qu'on fait maintenant, pour qu'elles soient vraiment super performantes, ont des pales qui s'orientent. Ça permet aussi, quand il y a trop de vent, de mettre les pales en drapeau. On appelle ça en drapeau, c'est... En gros, elles vont être dans le sens du vent, donc elles vont plus porter, et donc ça va éviter de tout arracher. Parce que c'est un gros problème quand on construit des éoliennes, c'est que s'il y a trop de vent, ça marche plus.
Attends, une éolienne, ça porte, donc ça veut dire que ça s'envole, en fait?
J'ai dit que ça portait. Les pales?
Oui. Alors, explique-nous.
Alors, en fait, les pales d'une éolienne, c'est un peu comme les ailes d'avion. Donc, en gros, quand une aile d'avion, quand on va souffler dessus, quand on va avoir la bonne incidence, c'est-à-dire l'angle entre l'axe, la corde de l'aile et le vent qui vient dessus, donc pour une incidence de 10-15 degrés, c'est à peu près l'idéal, et ben on va avoir une grosse portance qui va se créer, très forte, et ça c'est à peu près le moyen le plus efficace de récupérer de l'énergie du vent qu'on a. Et donc les pales d'éoliennes, c'est vraiment les profils sont étudiés, quand on a commencé à créer des profils dans les années 80, on a énormément utilisé ce qu'on savait faire sur les avions pour faire des pales d'éoliennes, et on a réussi comme ça à faire des choses très très efficaces. Et donc quand je dis ça porte, en fait c'est parce que la pale d'éolienne va avoir une portance avec le vent, et c'est cette portance qu'en fait c'est la force qui est orthogonale à la direction du vent qui va nous permettre de produire l'énergie. Voilà, c'est simplement...
La force est orthogonale à la direction du vent, donc
Portance, oui. Mais donc en fait c'est un peu plus compliqué parce qu'après il faut projeter la portance comme ça tourne. Toutes les parties de l'éolienne n'ont pas le même vent apparent parce que le bout de la pale, par exemple, va plus vite que le centre de la pale, et c'est pour ça qu'en fait les pales sont vrillées parce que le vent. En gros, quand vous êtes, si jamais vous avez envie de faire un truc super, je vous propose de vous accrocher au bout d'une pale d'éolienne et de vous laisser tourner avec l'éolienne, et vous allez voir que le vent en fait vient pas du tout de la direction du vent, mais vient beaucoup plus de latéral en fait parce que vous tournez en même temps.
Donc, voilà. Tu nous conseilles de nous accrocher au bout d'une éolienne pour la prochaine attraction qu'on va pouvoir faire. Okay.
Enfin bref, je divague un peu. Et pour revenir à ce qu'il y a dans la boîte qui est derrière, en fait, il n'y a pas simplement une génératrice. Il y a aussi plein d'autres éléments. Il y a un ordinateur. Entre la génératrice et l'hélice, il va y avoir ce qu'on appelle un multiplicateur, en fait, qui va faire tourner la génératrice plus vite, à peu près 50 fois plus vite que l'hélice. Parce qu'en fait, quand la génératrice tourne plus vite, on va dire qu'elle est plus efficace, mais elle va tourner moins fort. Enfin, comment dire? En gros, la génératrice de courant, elle marche bien quand elle tourne 50 fois plus vite que la vitesse de l'hélice. Et la vitesse de l'hélice, on n'aime pas qu'elle aille trop vite parce que sinon, ça arrache tout. Les pales, elles ont tendance à s'arracher, tout ça. Et il va aussi y avoir des transformateurs pour que le courant qui soit issu de la génératrice bah, il soit compatible avec quand vous branchez votre chargeur de téléphone. Vous n'avez pas envie d'avoir une tension qui soit n'importe quoi, ni une fréquence qui soit n'importe quoi. Alors, petite question. Est-ce que vous savez pourquoi les éoliennes ont trois pales ? Alors, je vais plutôt poser la question comme ça. Pourquoi les éoliennes n'ont pas deux pales ?
Je vais laisser les autres répondre un peu.
Je sais pas, est-ce que c'est plus aérodynamique ?
Trois pales ? Pas forcément. Gaël, t'as une petite idée ?
Ah non, pas du tout.
Pas du tout.
Moi, j'avais lu un truc comme quoi c'était optimal, les trois pales.
Ouais, ouais, bah, y a énormément d'études qui ont été faites sur le sujet.
Donc, en gros, il faut que soit que t'aies trois pales, soit le plus de pales possible.
Au niveau aérodynamique, tu veux dire ?
Ouais.
Ouais. En fait, rajouter des pales, ça coûte cher, parce qu'une pale, c'est super compliqué. Enfin, maintenant, on les fait en composite et tout, c'est vachement étudié, c'est lourd, tout ça. Et donc, il vaut mieux faire deux éoliennes à trois pales chacune qu'une seule éolienne à six pales. Ce sera plus efficace. Donc ça, déjà, c'est pourquoi on met pas énormément de pales comme sur les gros moulins américains, tout ça. En fait, ça coûte moins cher de faire plusieurs éoliennes avec que trois pales, déjà. Et surtout, c'est aussi efficace. On arrive à récupérer le maximum possible de ce qu'on pourrait simplement avec trois pales, et en rajoutant quelques-unes de plus, ça gagnerait pas grand-chose. On pourrait aussi en mettre deux. Ça existe, des éoliennes qui n'ont que deux pales. Et alors déjà, c'est un petit peu moins efficace en termes de récupération d'énergie, évidemment, mais en fait il y a d'autres choses qui sont pires. C'est que quand il n'y a que deux pales, il y a des contraintes au niveau de l'axe de rotation qui sont pires que quand il y a trois pales. Pourquoi? En fait, c'est ce qui se passe. Vous voyez, il y a un poteau sur l'éolienne, et quand une pale va passer en face du poteau, elle va avoir un peu moins de vent parce que le poteau arrête le vent, ce qui fait qu'elle va être un peu moins portée, et donc d'un coup la pale qui passe devant le poteau, elle a plus de vent, et donc il y a que celle d'au-dessus qui a encore la force du vent, ce qui fait qu'au niveau de l'axe, ça va donner un effort sec à chaque fois que une des pales passe au niveau du poteau. Et ça, c'est un peu moins fort quand il y a trois pales, parce qu'en fait, quand il y a trois pales, les deux pales qui vont être en haut quand une pale va être en bas du poteau, je sais pas si vous me suivez toujours, vont être plus à l'horizontale, et donc cette force va faire moins de dégâts. Je crois que j'ai perdu tout le monde. Bon, ouais. Bref, au niveau des contraintes...
Si j'arrive même plus à comprendre.
Non, mais c'est un peu dur sans dessin. Au niveau des efforts, en fait, si vous voulez, au niveau de votre axe, c'est un peu mieux d'avoir trois pales que deux. Il y a aussi même des éoliennes à une pale. Je sais pas si vous en avez déjà vu, moi jamais, enfin, à part en photo. Où en fait, il y a une pale et un contrepoids. Donc là, ça coûte vraiment pas cher, parce que faut le contrepoids, en gros, c'est juste du plomb, donc c'est pas cher. Une pale, c'est le coût d'une pale. Mais là, par contre, au niveau contraintes, en gros, c'est pas vraiment top, parce que vous appuyez toujours que d'un seul côté de votre hélice, et donc ça appuie énormément sur votre axe. Voilà. Ensuite, parlons un peu d'énergie. Alors, j'espère que je vais pas vous perdre, mais parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on récupère comme énergie ? C'est l'énergie du vent, ok. Mais l'énergie du vent, c'est quoi ? C'est l'énergie cinétique. Ah, alors là, peut-être déjà que j'en ai perdu quelques-uns, je sais pas. L'énergie cinétique, vous savez, c'est la fameuse formule énergie cinétique égale 1/2 de mv carré. Ça veut dire que plus vous allez vite, plus vous avez de l'énergie. C'est comme pour lancer une voiture, il faut consommer de l'essence. Ah ah, ok, faut que je me dépêche. pour avancer. Et bah, donc c'est cette énergie cinétique du vent, qui est en fait une certaine masse, qu'on va récupérer. Et donc, plus il y a de vent, plus il y a d'énergie cinétique. Mais en plus, plus il y a de vent, plus il y a d'air qui passe à travers notre éolienne. Et donc finalement, la quantité d'énergie qu'on va pouvoir récupérer en fonction du vent, elle est proportionnelle au cube du vent. C'est-à-dire que, concrètement, s'il y a 10 km/h de vent, on récupère 100 kW. S'il y a 20 km/h de vent, on en récupère 8 fois plus. Donc ça veut dire qu'en fait, les éoliennes, c'est bien quand il y a beaucoup de vent. Enfin... Si vous gagnez un tout petit peu de vent, vous allez gagner beaucoup plus d'éoliennes, et en plus, en mettant les éoliennes plus haut par rapport au sol, vous allez avoir un tout petit peu plus de vent, parce qu'au niveau du sol, il y a un peu moins de vent à cause du sol. Et donc c'est pour ça qu'on aime bien faire des grandes éoliennes. C'est surtout parce qu'elles sont un peu plus dans le vent, et qu'une toute petite différence fait une grosse différence à la fin en termes d'énergie. Alors ensuite, est-ce qu'on arrive à récupérer toute l'énergie du vent avec une éolienne, d'après vous ? Qu'est-ce qui se passerait si on récupérait toute l'énergie cinétique du vent avec une éolienne ?
Ah ah. Je crois que tu es en train d'essayer de parler à des gens qui ont plus du tout suivi depuis quelques minutes. Suivi.
Mais non, c'est marrant.
Alors, je sais pas, est-ce qu'on aurait trop de courant, par exemple?
Non, c'est pas forcément ça. Mais en fait, si on récupère toute l'énergie cinétique du vent, ce qui se passe, c'est que l'air s'arrête. Le vent s'arrête. Et si le vent s'arrête, il passe plus dans l'éolienne. Du coup, l'éolienne, elle tourne plus. Donc, en gros, il faut pas récupérer toute l'énergie cinétique. Il faut en laisser passer un peu. Et donc, il y a une limite théorique. En fait, l'optimal, c'est de passer, de récupérer 2/3 de la vitesse du vent. Et ça correspond à 59% de l'énergie du vent, à peu près. C'est ce qu'on appelle la limite de Betz. Donc déjà, les éoliennes, elles peuvent pas tout récupérer par rapport à leur surface. Mais ça, c'est normal. C'est pour n'importe quelle éolienne. Et si on parle de rendement, en gros, donc il y aurait cette limite-là qui serait 60% de l'énergie totale du vent. Mais en plus de... Dans ces 60%, en fait, on en récupère que à peu près 25%. Pourquoi ? Parce que déjà, l'éolienne n'est pas optimale, il y a toujours des frottements, tout ça. Et en plus, quand il y a trop de vent ou quand il n'y a pas assez de vent, l'éolienne ne tourne pas. Quand il y a trop de vent, en fait, c'est très gênant pour les éoliennes quand il y a trop de vent, parce qu'on arrache tout, donc il y a plein de systèmes de sécurité, il y a des freins, tout ça, on n'imagine pas. Donc l'éolienne ne tourne pas tout le temps, ce qui fait qu'en gros, on a 25% d'efficacité. L'efficacité, c'est l'énergie moyenne qu'on va récupérer par rapport à l'énergie qui est disponible. Et donc en fait le gros problème des éoliennes c'est voilà ça dépend du vent, c'est-à-dire quand il y a du vent on va produire de l'électricité, quand il y en a pas on produira pas. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, à grande échelle c'est pas facile de stocker l'électricité. Faire des petites batteries pour des téléphones ça va, faire des grosses batteries pour alimenter une ville entière c'est quasiment impensable. Donc c'est pour ça que l'éolienne parfois, enfin c'est un des arguments des anti-éoliens disant que c'est une énergie intermittente et donc c'est invraisemblable de pouvoir alimenter un pays avec ça parce que vous allez avoir de l'électricité quand vous en avez pas besoin et quand vous en aurez besoin la nuit par exemple s'il y a pas de vent et ben vous aurez pas de courant. Donc en fait ça c'est un bon moyen mais ça, jamais on pourra penser avoir que ça sur Terre. Voilà. Sauf si on arrive à trouver des bons moyens de stocker l'énergie, ce qui est possible. Et alors, pour finir, il y a un autre petit souci, c'est les éoliennes, parfois, déjà, il y en a qui trouvent que c'est moche. Moi, je suis pas d'accord, je trouve que ça, c'est joli, tant qu'on n'en met pas partout, mais ça fait partie du paysage. Enfin, voilà. Et il y en a qui trouvent que ça fait trop de bruit. Alors, il y a des études qui sont faites en cours. À peu près, le bruit, c'est... de l'ordre de 50 décibels, alors ça dépend vraiment de quelle distance vous êtes, etc. Mais Ottawa a lancé, là, tout dernièrement, c'est un article qui est paru dans la presse, où j'ai trouvé ça, ils ont lancé une étude sur les effets des éoliennes sur la santé, donc il y a à peu près 2000 habitations qui vont être sondées, des gens qui habitent à proximité des parcs éoliennes, et on va leur tester la pression artérielle, on va faire des entrevues, ils vont mesurer le bruit à l'intérieur des résidences et à l'extérieur. Et donc ça, c'est par Santé Canada, en collaboration avec Statistique Canada. Et alors, en fait, il y a déjà eu plein d'études qui ont été faites sur le cas, et bon, les conclusions, c'est que c'est pas non plus... vous avez moins de chances de mourir d'un cancer à cause d'une éolienne que de n'importe quoi d'autre, quoi. Enfin, en gros, c'est pas tellement gênant sur la santé non plus. Et justement, c'est ce que dénonce... dans l'article, l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, c'est que... Je cite, c'est choquant de voir qu'on refuse de faire des études sur la santé et les gaz de schiste, et on veut en faire sur les éoliennes quand on sait que c'est une énergie propre. Je suis un peu d'accord avec eux, c'est que ça fait longtemps que, enfin ça va, le bruit des éoliennes, ça va tuer personne quand même. Et alors que à côté de ça, on fait des gaz de schiste, des sables bitumineux, tout ça, et puis bon. Voilà, c'était ma chronique. Je sais pas si, est-ce que vous avez des questions?
Je veux savoir s'il y avait des répercussions sur des éoliennes sur la faune en particulier.
Alors oui.
J'entends dire les chauves-souris par exemple.
Ça tue les oiseaux.
Alors les chauves-souris, je sais pas. Je sais que ça a des impacts sur les oiseaux. Alors j'étais tombé sur des chiffres. C'est pas beaucoup quand même. Genre sur des énormes parcs éoliens, ça va être de l'ordre de. Quand je dis des énormes parcs éoliens, c'est peut-être de l'ordre de 1000 éoliennes. Ça va peut-être tuer 200 oiseaux par an. Donc, alors ça paraît beaucoup comme ça pour les pauvres oiseaux, mais bon. Je trouve il vaut mieux.
Par rapport à la beauté d'une éolienne, il vaut mieux quand même une éolienne. Hein.
Et tu mets une bonne centrale à charbon, je sais pas ce qu'est le plus mal, quoi. Enfin voilà, faut choisir.
Merci Denis, on va faire une petite pause, on va écouter une chanson de CEA qui s'appelle Que du reggae et on se retrouvera tout de suite après avec Gaël. À tout de suite.
Écoute ton reggae, man, que du reggae. Faut déranger tous les voisins d'à côté. Joue ton reggae, man, que du reggae. Mets le son à fond, tu sais qu'on va tout cramer. Bye, 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 bye. Chante ton reggae, man, que du reggae. Dans Brutes and Culture, Ragamuffin, Stylé. Yeah, yeah, yeah. Dans ton reggae, man, que du reggae. Wine pour reggae, dancehall toute la soirée. Bye, 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 bye. Imagine-toi un monde où on écoute que du reggae. Une planète verte où tout le monde se raconte la vérité. Fraternité entre peuples prêts à tout partager. Un monde où on peut voyager, même sans papier. Oh, oh, yeah, we'll die, yeah, we'll talk to you. Est-ce pas reggae, ton style, ouais, tu nous l'aider. Oui, oui, y'a chouïa, n'est-ce pas cher. Disney, we'll talk to you, pas de troll, les bobs. فديت من البلاد بتاعك في الحومة دي ما ماشي صفر على البنات ودي في فمك سيجارو ودي ما تلوج على حويجة ودي ما تلوج على مشاكل فيك على روحك خويا اسمع الرجي بالعاصر
J'ai créé déjà le résultat de l'élection J'ai voté pour la vérité sans poser de questions Tout le monde il est temps de passer à l'action On est plus fort quand on est entouré des autres J'ai continué de bouger sans jamais changer de cause oh, ce qu'on fait de mauvais ça peut se faire à nous enterrer tous Je préfère avoir un ami de plus Allez venez dans ma bulle Pendant ce temps le petit Babylone brûle
yeah, yeah,
Tu
yeah,
sais
yeah.
mon amour est infini dans une relation de confiance Pour la musique et mes amis je te la donne son Tu donnes pas d'amour et tu finis dans une relation de haine Pour pas penser le même raisonne son Arrête un peu, je t'en prie Et laisse plutôt mon reggae confirmer son emprise Je ne t'invente rien, je t'aime Et je te promets, le monde ne sera plus le même What's up, son?
Imagine-toi un monde où on écoute que du reggae Une planète verte où tout le monde se raconte la vérité Fraternité entre peuples prêts à tout partager Un monde où on peut voyager Même sans papier Même sans papier Même sans papier
Quand on est entouré des autres
Joue ton reggae, man, que du reggae
Sans jamais changer de cause, cause
Joue ton reggae, man, que du reggae Mets le son à fond, tu sais qu'on va tout cramer bye, 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 Chante bye, ton bye. Reggae, man, que du reggae Dans Brutes and Culture, Ragamuffin, Stylé
yeah, yeah, yeah.
Dance ton reggae, man, que du reggae Wine pour reggae, dancehall toute la soirée bye, 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 bye.
CHUO, 7h passées de 42 minutes maintenant. Alors on va vous parler tout de suite de compostage et de compost et puis on s'arrêtera vers 8h moins 10, 8h moins 5 pour faire les sports et puis enchaîner sur la chronique RFI, donc sur les actualités RFI. Donc la chronique sera peut-être coupée en deux, on verra un petit peu. Alors moi je voulais vous parler de compostage. Alors compostage ça vous dit sûrement quelque chose?
Oui, c'est quand on s'assure que nos déchets organiques se dégradent pour faire de l'engrais.
Alors exactement. Déjà petite question, il faut utiliser des déchets organiques comme tu l'as dit. Alors qu'est-ce qu'un déchet organique?
Tu me demandes ça comme ça?
qui rentre dans la petite poubelle verte là.
Ouais ouais ouais. ouais.
Alors exactement. En fait. Oui.
Je sais pas, c'est tout ce qui est fait à partir d'aliments à la base, enfin de végétaux ou de, enfin, Tout ce qui est issu de la nature, quoi. Tout ce qui est pas du plastique.
Alors en fait, tu pourrais me dire tout simplement, c'est tout ce qui n'est pas minéral. Alors la question, donc ça devient l'opposé. En fait, oui, c'est ça. C'est plus ou moins tout ce qui est fait, enfin tout ce qui est issu de végétaux, mais à des stades plus ou moins évolués. Mmh. Et du coup, forcément, le pétrole, c'est issu de végétal, mais c'est considéré comme du minéral.
Ok.
Donc ça marche pas.
Ok.
Mais globalement, bah.
Donc si t'as un baril de pétrole chez toi, tu peux pas le mettre au.
Non,
compostage.
Tu peux pas mettre du pétrole au compostage, ça va pas marcher. Et tu peux pas mettre non plus, du coup, les dérivés du pétrole, par exemple le plastique.
D'accord.
Donc en fait, tout ce que tu. Ce que tu ne peux pas mettre au compostage, enfin, ce que tu peux pas composter, c'est déjà tout ce qui est recyclable. À part le papier, que tu peux à la fois recycler et composter. Mmh. Donc après, ça dépend de ta fibre écologique ou ta fibre compostage. Enfin, c'est même si c'est de l'écologie les deux, mais suivant que tu veux sauver les arbres en.
En fait, ça dépend surtout si le papier va commencer à être tout crade, tout souillé, auquel cas c'est plus difficile de le recycler.
Voilà, mais si t'as du papier, enfin, par exemple, une vieille feuille de papier, ça peut être recyclable. Enfin, une vieille feuille de papier sur laquelle t'as écrit, ça peut être recyclable. Bon bref, donc le compostage, enfin les produits qui sont compostables, c'est globalement tout ce que tu utilises dans ta cuisine à part les emballages. Donc à la fois les pelures des fruits et des légumes, les restes de nourriture, même si d'après certains sites internet, c'est pas très conseillé de composter de la viande et du poisson et des choses comme ça, et des os qui se compostent assez mal, enfin assez lentement. Et puis c'est également... Alors par exemple tous les plastiques faits de maïs, donc ça c'est les nouveaux des nouveaux plastiques ou des sacs poubelles qui sont compostables. C'est en général c'est marqué dessus.
Tu veux dire comme les verres de bière du Blues Fest, c'est ça?
Par exemple.
Par exemple, et ouais, tous les verres de bière du Blues Fest sont compostables.
Voilà, puis certains autres. Alors par exemple on pense aux couverts pour les pique-niques et les choses comme ça généralement. Enfin, si vous achetez
les ustensiles,
les ustensiles, ouais, c'est ça. Que ce soit les assiettes, les fourchettes, les couteaux, si sur l'emballage, enfin, des fois sur l'emballage, c'est marqué que c'est compostable, et ben dans ce cas-là, ça veut dire que vous pourrez le jeter avec le compost. Alors, pourquoi faire du compostage? Alors, d'après, là, je suis allé sur le site de l'Environnement Canada, donc ec.gc.ca, qui nous donne trois raisons. Alors, première, c'est bon pour la planète. Parce que ça réduit la quantité de poubelles qu'on va devoir brûler ou enfouir. Deuxième raison, c'est bon pour le portefeuille. Parce que ça permet d'éviter d'acheter des produits de jardinage à la place. Et troisième raison, c'est bon pour les plantes. Parce que, en fait, les produits, une fois compostés, on va pouvoir les utiliser comme des engrais, sauf que c'est des engrais naturels. Alors, il donne un certain nombre de petits conseils pour pouvoir faire du compostage soi-même, en fait. Alors pour ça, il suffit d'avoir un petit espace chez soi. Donc là, il donne une surface d'environ 3 pieds carrés. Alors après, ça dépend de la quantité de compost que vous voulez faire, de la taille de votre jardin, etc. C'est un peu adaptable. Mais donc, ce qu'il faut, c'est déjà un espace dans lequel on va pouvoir mettre tous les déchets à composter, puisque ça prend de la place. Mmh. Au bout de quelques mois, vous avez qu'à voir le nombre de poubelles que vous jetez chaque semaine. Et si vous faites déjà le tri du compostable, vous pouvez voir déjà la place que ça prend. Forcément, il faut un certain espace dans son jardin. Donc ensuite, il faut un composteur. Donc un composteur, ça va être un espace. Donc c'est soit quelque chose que vous achetez, soit quelque chose que vous fabriquez vous-même. Ça va être un espace dans lequel vous allez pouvoir mettre le compost pour qu'il puisse... les déchets compostables pour qu'ils puissent se transformer, se composter, se transformer petit à petit. Donc ça, c'est un espace qui doit être plutôt pas trop ouvert et surtout qui doit maintenir le compost en place. C'est-à-dire qui s'étale pas dans tout le jardin s'il y a du vent ou qui s'envole pas chez les voisins dès qu'il y a un petit peu de vent, dès qu'il y a un petit peu de pluie, que ça ruisselle pas, etc. Ensuite, il vous faut un outil pour retourner le compost. Donc une fourche, en fait, ça peut suffire, tout simplement. Et il parle aussi d'un contenant refermable dans lequel vous placerez vos résidus de table. Donc ça, c'est tout simplement une poubelle, en fait.
Merci. Attention, pensez bien au contenant refermable.
Okay. Voilà.
Et donc la recette pour faire du bon compost, est-ce que tu l'as genre combien de temps? Est-ce qu'il faut retourner? Est-ce qu'il faut ajouter de la terre? Est-ce qu'il faut ajouter de l'eau?
Justement, j'allais en parler. Ah. Donc, Les matières, donc ils font une liste un petit peu des matières qui se compostent bien. Alors, en fait, pour faire un bon compost, il y a deux types de matières. Il y a les matières organiques sèches, qui sont en général riches en carbone, et les matières organiques qu'on appelle humides, qui sont plutôt riches en azote. Et en fait, ils font un juste mélange entre les deux. Alors, les matières organiques sèches, c'est les feuilles mortes, que vous pouvez récupérer en automne, le foin, la paille. Alors ça, on en récupère un peu moins souvent en ville. Mais si vous avez un animal, ça peut être sa litière, par exemple. Les copeaux de bois, la sciure de bois, les serviettes en papier, la charpie, de la sécheuse. Donc ça, une fois que vous avez séché vos vêtements, vous pouvez récupérer les restes de la sécheuse et ça fait, et oui, ça fait des substances organiques sèches.
Ok.
Et aussi le contenu du sac d'aspirateur. Donc en supposant que vous n'avez pas aspiré les petits papiers de bonbons, etc., en plastique ou en métal, en aluminium dégueulasse, qui vont jamais
se composter. Et se retrouver dans vos fleurs.
Exactement.
Ok, donc ça c'est les sèches.
Donc ça c'est les matières organiques sèches.
Les humides.
Et donc il faut alterner avec des matières organiques humides, donc qui sont par exemple les résidus de la tonte de pelouse, les pelures, les restes de fruits et légumes, les sachets de thé, les pâtes, le marc de café, le pain rassis et les coquilles d'œufs également.
Ok.
Donc ça, en gros, il conseille de faire une alternance entre les deux. De mettre en fait une couche de déchets organiques secs, puis une couche de déchets organiques humides, puis etc. De façon à pouvoir avoir à peu près autant à chaque fois dans le composteur.
Ok. L'important, donc, c'est pas d'avoir que d'un type, c'est ça?
L'important, c'est d'avoir le mélange des deux types.
Ce qui
va faire quelque chose d'assez optimal.
Et le composteur, ça doit ressembler à quoi encore?
Alors, le composteur, ça peut ressembler tout simplement à.
C'est une sorte de cagette.
En fait, une grosse boîte de.
Ouais.
Une espèce de grosse boîte.
Sur les côtés, c'est ça, non?
Mmh. Qui peut être aéré sur les côtés plus ou moins. Et en fait, ça dépend des cas, ça dépend de ce que tu veux faire. En fait, il y a différentes méthodes. Le plus simple, c'est tout simplement de faire un trou dans le sol et de mettre les trucs dans le trou. Le problème, c'est que c'est plus dur à mélanger. Et en fait, moins on mélange, et plus ça va être odorant en fait. Parce que le compostage, en fait, c'est. Eh ben oui, tiens, je vais en parler tout de suite parce que ça rentre bien dans la.
Vas-y.
Enchaîne.
Donc en fait, le compostage, ça pue.
Donc en fait, le compostage, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement. Est-ce que ça pue? Alors, le compostage, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des petits animaux qui vont rentrer. Donc, des petits animaux, c'est plutôt des bactéries en fait.
Ouais, c'est.
Qui vont attaquer petit à petit le.
La matière.
Matière, exactement. Alors en fait, ils vont consommer au départ tout l'oxygène de l'air. Donc c'est pour ça qu'il faut que le compost soit un peu
aéré.
Et donc on fait des mélanges entre matière sèche et matière humide parce que ça, en essayant de les aérer un petit peu comme ça entre les deux. En fait, l'oxygène donc va être consommé par toutes ces bactéries qui vont donc. Alors je me rappelle plus le nom des bactéries.
Ça doit être Brachiochusta elapsitica ou un truc comme ça.
Non, mais il y a un nom. C'est des bactéries mésophiles en fait, parce que elles se transforment. Enfin, elles marchent à température à peu près normale, et donc en fait elles vont respirer. Ça va augmenter petit à petit la température du compost, qui va atteindre 40, 45, 50 degrés. Et ensuite, au-delà de cette température, en fait, les bactéries mésophiles, donc mésophiles, en fait, ça veut dire qu'elles fonctionnent à des températures qui sont à peu près les mêmes que le corps humain, en gros. Donc,
d'accord. Donc,
c'est ça, des températures assez ambiantes. Donc, elles vivent entre quoi?
Des températures ambiantes, donc.
Disons qu'elles peuvent vivre entre une vingtaine et une cinquantaine de degrés, quoi.
Ok.
Un peu comme un être humain s'il est tout nu, quoi. Et ensuite, donc, la température va augmenter à cause de ces bactéries qui vont respirer dans le compost. Et à force, au fur et à mesure que la température augmente, en fait, ces bactéries vont être de moins en moins efficaces et elles vont être remplacées naturellement par des bactéries thermophiles qui, elles, vivent à des températures beaucoup plus élevées, donc entre 50 et jusqu'à plus de 100 degrés. Mais là, dans le cas du compost, en fait, on s'arrête à 60, 70, 80 degrés. Ça dépend un petit peu des conditions extérieures, du retournement, parce que quand on va le retourner, on va le refroidir un peu.
Et d'ailleurs, ici, est-ce qu'il y a une saison qu'on devrait préférer
Alors, absolument pas, ça marche toute l'année.
D'accord.
C'est juste beaucoup moins efficace quand il fait froid dehors.
Okay.
Mais ça marche.
Et donc, oui, pour finir, donc, tu disais, c'est ces bactéries-là qui aiment le chaud.
Bactéries thermophiles, oui.
Thermophiles, c'est elles qui sentent pas bon
Alors en fait, c'est un petit peu un mélange de tout. En fait, c'est ces bactéries thermophiles qui vont participer à la principale, enfin qui vont faire la majeure partie de la dégradation du compost, parce qu'en fait la température elle va monter très très rapidement et en quelques jours, 2-3 jours maximum, on aura déjà la présence de ces bactéries thermophiles.
Okay.
Et donc ensuite elles vont essayer de tout consommer, donc ça va aller plus ou moins vite, ça va marcher plus ou moins bien suivant l'aération. Donc c'est pour ça qu'on dit de retourner en fait le compost, c'est pour pouvoir l'aérer,
redonner de l'oxygène,
c'est ça, redonner de l'oxygène et permettre un compostage de 1 plus rapide et également moins odorant, parce que moins il y a d'oxygène et plus ces bactéries vont faire d'odeur en fait.
D'accord, ok.
Donc en fait, si on s'en... Bon, j'ai jamais essayé, mais si on s'en occupe bien, apparemment le compost ça peut ne pas faire d'odeur en fait. Il faut simplement s'en occuper assez régulièrement, le retourner. Alors ils disent par exemple une fois par semaine, c'est quelque chose de pas trop mal. Donc une fois par semaine, quoi. Vous prenez votre fourche et hop, on retourne
c'est
un peu le compost.
Fait les bras.
Exactement. Et puis alors une fois que tout ça, ça aura été consommé, enfin une fois que toutes les bactéries thermophiles auront consommé tout ce qu'elles peuvent consommer, la température va redescendre petit à petit en fait. Et on va avoir un compost qui ressemble plus ou moins à une espèce de terre, mais encore un peu bizarre, quoi. Pas tout à fait un bon terreau. Alors ça peut servir éventuellement d'engrais, mais si on veut s'en servir comme d'un terreau, en fait il va falloir le garder et puis l'utiliser un petit peu plus tard. Le temps d'affiner le compost, alors là ça se fera à des étapes beaucoup plus longues.
Et donc est-ce que tu sais s'il faut rajouter de la terre dans un compost ?
Absolument pas.
Absolument pas, pas besoin.
Il faut juste des matières azotées et des matières carbonées.
Et l'ensemble du processus alors prend combien de temps ?
L'ensemble du processus, ça dépend de la méthode, et comme il est 7h55, je vous propose qu'on en parle juste après.
Le suspense.
Les sports.
Alors, merci JB. On va faire les sports rapidement avant de passer aux nouvelles RFI. Alors, au soccer, duel 100% canadien ce soir en MLS, alors que le Toronto FC affronte les Whitecaps de Vancouver. Le match débute à 19h. Et je rappelle que c'est aussi la Open Cup, le championnat américain de soccer, qui se poursuit ce soir avec 2 matchs. D'abord, à 19h30, l'Union de Philadelphie se mesure au Sporting Kansas City. Et à 22h, c'est au tour des Sounders de Seattle d'affronter le Chivas USA. Au baseball, c'était le 83e match des étoiles de la MLB hier soir, opposant les joueurs de la Ligue américaine à ceux de la Ligue nationale. Et vraiment, là, victoire sans appel de la Ligue nationale. Pointage final, 8-0. Le voltigeur José Bautista était l'unique représentant des Jays à ce match des étoiles. Et les Blue Jays font toujours relâche aujourd'hui. Ils reprendront ce vendredi 13 juillet à l'occasion d'une série de 3 matchs à domicile contre les Cleveland Indians. Au Tour de France, eh bien, le Tour faisait relâche hier afin de permettre aux coureurs de se reposer. La compétition reprend aujourd'hui pour la 10e étape, 194,5 km entre Mâcon et Bellegarde-sur-Valserine. C'est toujours le Britannique Bradley Wiggins de l'équipe Sky qui porte le maillot jaune avec un temps cumulatif de 39 heures, 9 minutes et 20 secondes. Et puis, il est à 1 minute et 53 secondes devant le champion en titre, l'Australien Cadel Evans. Le Slovaque Peter Sagan, fort de 3 victoires d'étape, conserve le maillot vert. Le Suédois Fredrik Kessiakoff d'Astana porte le maillot à pois et l'Américain TJ Van Garderen de BMC porte le maillot blanc. Et puis, toujours concernant le Tour, bien, on apprenait hier que le cycliste Rémi Di Gregorio de l'équipe Cofidis avait été arrêté et placé en garde à vue par les autorités françaises pour soupçon de dopage. Di Gregorio courait avec Astana en 2011 et il était déjà sous enquête, de même que tous ceux qui avaient couru avec l'équipe cette année-là. Alors, affaire à suivre. Et puis au football, en terminant, la saison de la LCF se poursuit demain entre les Stampeders de Calgary et les Alouettes de Montréal. Le match débute à 19h30. On apprenait cette semaine qu'Anthony Calvillo, le corps arrière vedette des Alouettes, est blessé à l'épaule. Alors on ignore s'il sera de la partie, mais il était à l'entraînement hier, alors c'est encourageant. Et puis ne manquez pas non plus vendredi le duel entre les Blue Bombers de Winnipeg et les Eskimos d'Edmonton à 21h.
Merci beaucoup Marianne, vous nous écoutez toujours sur CHUO 89.1 FM, on est au milieu de l'émission d'émission du matin et cette semaine on vous parle de la nature et du plein air et on vous a déjà parlé des éoliennes, on est en train de vous parler de compostage donc juste après les informations RFI on continuera là-dessus, on vous parlera aussi de nature et culture.
Voilà.
et des petites idées de recettes pour les campings.
C'est ça, oui.
Voilà, alors juste avant les infos RFI, petite minute météo. Alors actuellement à Ottawa, il fait 17 degrés, temps généralement ensoleillé, une humidité assez importante de 65 degrés. Maximum pour la journée qui sera ensoleillé de 28 degrés. Jeudi, temps ensoleillé, maximum de 32 degrés. Vendredi, la température monte, on sera toujours sous le soleil avec un maximum de 35 degrés. Donc température assez élevée vendredi. Samedi, on aura arrivé de nuages un petit peu avec une alternance soleil et nuages. Un maximum de 32 degrés. Dimanche, ce sera nuageux avec de la pluie. Maximum de 30 degrés. Lundi, on aura alternance soleil et nuages. Et mardi, enfin, ensoleillé. Donc un très beau temps, à part peut-être pour la journée de dimanche. Mais ça a le temps de changer d'ici là.
Profitez-en.
C'est ça, profitez du beau temps, profitez du soleil pour faire un petit tour dehors. En plus, les températures sont pas trop élevées. Donc,
ça va, c'est bien.
C'est bien. 7h59 minutes, il va nous rester juste le temps de mettre le pont et d'enchaîner tout de suite sur les infos RFI. On se retrouve tout de suite après les infos RFI à 8h10 minutes sur CHUO. Ne quittez pas, à tout de suite. 8h passées de 10 minutes, comme promis, nous vous retrouvons sur CHUO 89.1 FM. On est au milieu de notre émission du matin et on vous parlait à l'instant de compostage, alors on va continuer tout de suite dans le thème du compostage. Alors Gaël, tu me demandais combien de temps la maturation du compost met à peu près.
Ouais, et puis comme tu disais qu'il y a des différences entre été et hiver, je me demande si ça influence justement la durée du processus.
Alors oui, évidemment la durée du processus change un petit peu. Le problème c'est que le compostage au niveau, disons, de l'individu au moins, enfin au niveau pour une personne, si c'est une personne qui le fait pour chez elle, c'est un peu comme un gâteau, quoi, c'est pas une science exacte. Et ça dépend de...
Il faut mettre de l'amour dedans.
Et donc ça va dépendre un petit peu de plusieurs facteurs, de plusieurs choses, etc. Donc j'ai pas le temps exact. Ça dépend aussi un petit peu de si les animaux vont pouvoir bien apprécier le compost, etc. En gros, la période où ça marche plutôt bien, donc en gros entre le printemps et l'automne, quand les températures sont positives et que déjà quand le compost est gelé, ça marche pas. Mais comme il y a un chauffage naturel du compost, il va mettre plus de temps à geler que l'extérieur. Puis en plus, comme c'est un tas de terre, un tas de déchets qui vont devenir de la terre, ça gèle un petit peu moins vite que...
Faut déblayer les 2 mètres de neige avant, quoi.
C'est ça. Ah, et quand tu le retournes, faut pas mettre la neige dedans.
Ouais, c'est ça.
Mais en fait, la plupart des bacs à compost en fait ont une espèce de toit au-dessus pour éviter que la pluie et la neige ne tombent dedans.
D'accord.
Donc normalement ils devraient pas trop être contaminés par la neige.
Merci.
Donc en fait sur les mois d'été, le compost en gros c'est de l'ordre de 1 mois à peu près pour la première phase, la phase active, pendant laquelle il va se passer la majeure partie de la transformation. Donc c'est 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois, bon ça dépend un petit peu des cas, mais en gros c'est de l'ordre d'un mois à peu près. Et puis ensuite, il va falloir le laisser, donc suivant les usages qu'on veut en faire, il va falloir le laisser maturer plus ou moins longtemps. Donc ça, après, ça peut se faire de façon... donc par exemple, il suffit de sortir le compost de la composteuse. C'est comme ça qu'il disait ?
Composteur.
Du composteur. Et le mettre tout simplement sur un tas, un petit peu caché dans le jardin, quoi. Et là, ça peut durer un petit peu plus longtemps, plutôt de l'ordre de 6 mois, en fait. 6 mois à 2 ans suivant les usages.
Ah oui, quand même.
Voilà, ça c'est un peu plus long.
Ouais.
Bah parce qu'en fait, si tu veux faire du vrai bon terreau, il va falloir qu'il soit vraiment complètement maturé et qu'il ait complètement fini le cycle. Et donc ça peut durer jusqu'à 2 ans à peu près.
D'accord.
Mais en gros, la phase active, la phase dans laquelle il faut retourner fréquemment, etc., c'est de l'ordre de 1 à 2 mois.
Ok.
Voilà, alors je voulais vous parler aussi des techniques industrielles de compostage, parce que si vous habitez la ville d'Ottawa, vous devez le savoir, et puis il y a d'autres villes au Canada où ça existe, on a des poubelles spéciales pour le compost.
Et donc, les vers du Blues Fest sont compostables parce qu'ils sont faits en maïs, et donc on récupère des tonnes et des tonnes et des tonnes de vers au Blues Fest.
Voilà, donc si vous allez au Blues Fest également, puisque Denis veut le mentionner, vous avez des poubelles compostage, et donc les déchets seront compostés. Et alors, quelle technique on utilise pour le compostage? Alors, il y a différentes techniques qui coûtent plus ou moins cher, qui sont mises en place suivant les villes. Alors, la technique la plus simple, c'est la technique de compostage par andain retourné. Alors ça, c'est simplement des espèces de longs...
des tas de compost,
mais qui sont mis en mottes assez longues, en fait.
Mm-hmm.
Et qui vont être retournés assez fréquemment. Alors, ça a l'avantage d'être un système qui est pas cher, mais ça prend quand même pas mal de place par rapport à d'autres systèmes. Et puis, surtout, ça fait des odeurs. Et s'il pleut dessus, en fait, les eaux de pluie qui vont réussir après doivent être traitées, parce que elles sont un peu polluées par tous les organismes qui sont dans le compost.
Ok.
Ensuite, il y a une autre méthode en extérieur qui s'appelle méthode par aération forcée. Donc ça, au lieu de le mettre dans des petits tas comme ça, on va le mettre dans des... En fait, ça ressemble plus à ce qu'on peut faire chez soi. On va le mettre dans des espèces de petits bacs qui peuvent être donc protégés un petit peu de la pluie. Donc ça, c'est comme ce qu'on fait chez soi, en fait, et ça permet d'avoir un petit peu plus de quantité de compost, donc jusqu'à 8000 tonnes de compost par hectare. Donc ça, quand même, ça permet de traiter à peu près deux fois plus.
Il le retourne aussi, alors?
Oui, c'est également retourné, ou alors il y a des techniques d'aération en injectant de l'air directement. D'accord. Dans le compost, ou en aspirant de l'air du compost. Et ça permet d'aller un petit peu plus vite également que la technique par andain retourné. Ensuite, il y a toutes les techniques à l'intérieur. Donc à l'intérieur, il y a principalement deux techniques. Donc il y en a une qui consiste à rentrer le compost, en fait, dans des espèces de silos couloirs. Donc en fait, des espèces de longs couloirs dans un bâtiment où on va mettre le compost d'un côté. Il y a une machine qui va passer régulièrement, qui va retourner le compost et qui va le faire avancer un petit peu. Et en fait, on va le récupérer de l'autre côté. Et il aura fini son cycle.
C'est des tuyaux magiques.
C'est des tuyaux magiques. Alors ça permet, déjà, c'est beaucoup plus simple en termes d'odeur et d'eau à retraiter.
Ouais, parce que,
c'est à l'intérieur, et donc c'est, voilà, le traitement est beaucoup plus simple. Et puis ça permet de traiter jusqu'à 10 000 tonnes par hectare, donc encore plus que les techniques extérieures. Le problème, c'est que ça coûte un petit peu plus cher. Et enfin, la dernière étape, c'est un compostage en tunnel, en fait. Alors là, c'est comme des bacs, mais ils sont complètement fermés. Il y a tout un système autour de traitement. Et là, c'est pareil, ça fait à peu près 10 000 tonnes par hectare également. Enfin, c'est à peu près les mêmes avantages et mêmes inconvénients que la méthode par silo couloir. Voilà pour le compostage.
Intéressant.
Merci.
C'est donc...
Voilà. Alors je peux juste rajouter un petit paragraphe. En fait, pendant le compostage, donc j'ai mentionné qu'il y avait une température qui s'élevait. Il y a également, en fait, une fabrication de gaz, du méthane en particulier, qui va s'échapper. Alors la question que vous pouvez vous poser, c'est: est-ce qu'on peut récupérer de l'énergie à partir du compostage? Et ben la réponse est oui.
Mais c'est plus par rapport à la chaleur, non, je dirais.
Alors c'est à la
non,
fois.
Non, c'est pas ça.
C'est à la fois par la chaleur et par le méthane aussi.
Ok.
C'est les deux. Et donc la réponse est oui. C'est pas très très développé, mais il y a des techniques qui existent qui permettent de récupérer de l'énergie du compostage. Alors c'est en fait ce que j'avais vu, c'est une méthode qui récupère de l'énergie du compostage de broussailles, en fait, et pas de déchets ménagers. Mais pourquoi pas l'appliquer sur des déchets ménagers? En tout cas, actuellement, je crois pas que ce soit très développé encore. Mais c'est une technique qui peut exister pour faire du chauffage,
Ok.
Et du méthane.
Donc quand tu dis méthane, ils récupèrent le méthane et après ils le font brûler, quoi. C'est ça?
Bah oui.
Ok, d'accord.
Pourquoi tu voulais en faire quoi?
Non, mais je sais pas, parce que c'est pas évident de récupérer du méthane qui s'échappe d'un compost. Enfin, dans le cas de quand c'est à l'intérieur, oui, mais en plein air, c'est impossible.
Bah c'est pour
c'est
ça,
pour
que,
ça que c'est à l'intérieur.
C'est pour ça qu'on fait pas de valorisation toujours okay. Super facilement, parce qu'il faut mettre en place les moyens. On va faire une petite pause publicité musique, et puis on retrouvera Gaëlle pour ta chronique sur la nature et la culture. C'est ça,
c'est
nature
ça.
Par opposition à la culture.
Exactement.
Ouh là là.
Attention.
Voilà. Allez.
À tout de suite sur CHUO.
Yeah. voulais faire un album correct avec un million d'euros. Pourtant c'est pas compliqué, t'es luthier si se met à chanter. Des trucs faciles sur un air que tout le monde connaît. Mais dans leur cœur, ils sont à fond, ils ont l'impression de faire la révolution. Alors qu'ils sont juste là pour nous amuser. Ouais.
Passé de 22 minutes sur CHUO. Gaëlle, on t'écoute.
Oui, alors bonjour. Alors je vais parler de plusieurs. Ça va toucher à plusieurs matières, ma petite chronique aujourd'hui. Donc biologie, philosophie, sciences humaines, sciences sociales. Donc j'ai décidé de prendre le mot nature dans un terme, dans son terme un peu plus générique. Donc nature avec un grand N. Alors déjà, ça vous inspire quoi, nature avec un grand N?
C'est comme la nature avec un petit N, mais t'as mis une majuscule au début.
Merci JB.
Non, c'est la poésie, c'est la nature, disons plus l'état naturel d'un état d'esprit.
D'accord,
c'est un absolu en fait.
Ouais. En fait, c'est un terme qu'on a souvent opposé au terme culture, donc on les met souvent en relation de dichotomie comme ça. Et la définition la plus simple. Par nature, on peut entendre toutes les caractéristiques que nous possédons du simple fait de notre appartenance à une espèce déterminée. Donc, elle serait à la fois innée et biologique, alors que la culture, c'est davantage le fait d'une coutume, d'une convention. Ça relève d'une institution humaine plutôt que d'un patrimoine biologique. Donc c'est ce même débat, c'est aussi le débat de l'inné versus l'acquis. Donc c'est une grande question. Un caractère biologique en général, on dit qu'il est inné lorsqu'il est déterminé dès la naissance d'un individu. Mais par contre, ça n'implique pas que ce caractère doit être observable forcément dès la naissance. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui s'expriment à différentes périodes de la vie ou sous certaines conditions.
Donc par exemple, marcher, ce serait inné.
Oui. Oui.
Voilà. Alors que ça ne s'observe pas de la naissance.
Tout à fait. On peut dire la même chose de la pilosité, par exemple. Donc c'est un caractère qui va s'exprimer...
C'est la nature.
Voilà, plus tard dans la vie. Et donc ça revient un peu à ce débat de la génétique contre l'environnement. Donc est-ce que nous sommes le produit de nos gènes ou de notre environnement. Donc c'est au cours du XXe siècle, il y a eu plusieurs tendances, plusieurs courants. Il y a beaucoup de personnes qui se sont posées cette question avant nous et qui continuent de se la poser. Donc un tout petit peu d'histoire. Donc déjà le mot gène a été utilisé la première fois par un biologiste danois de l'hérédité il y a à peu près un siècle, monsieur Willem Johansen. Donc, il a voulu savoir, en fait, quelle était l'influence des caractères génétiques sur l'aspect des organismes. Donc, lui, il s'est mis à étudier des haricots. Donc, qu'est-ce qui était, à quel point les haricots étaient influencés par leur environnement. Donc, il est arrivé à des conclusions un petit peu nuancées. Donc, c'est ça qui a dominé même si au cours du XXe siècle, il y a eu des tenants très forts de l'approche innée et de l'approche acquise. Parce que finalement, on pourrait dire que tout est génétique. Parce que par exemple, si on réagit à de la musique ou à des gens, etc. Donc techniquement, notre environnement, on peut aussi se dire bon, ben, c'est peut-être parce qu'on a certaines prédispositions qui seraient déjà inscrites.
Donc par exemple, la façon dont on s'habille, la mode ou des choses comme ça, ça pourrait être génétique. Enfin, inné.
C'est une bonne question parce que après la mode c'est un exemple intéressant, c'est un peu extrême, mais notre manière de réagir par rapport à la conformité ou par rapport à des tendances c'est comme ça que je le comprends. Alors moi je vais prendre un cas un petit peu plus concret qui peut faire un peu controverse, mais c'est pas grave. Donc le cas de l'intelligence, parce que c'est une question qui a été souvent posée, et puis moi-même j'en discutais avec deux très bonnes amies à moi il y a pas très longtemps, et on n'était pas du tout d'accord sur la partie innée, la partie acquise. En fait, la théorie de l'inné, elle a été très populaire au 19e siècle, et ça a été porté en fait par notamment le colonialisme. Donc l'expansion de l'homme occidental dans différentes colonies, il a été confronté à différents peuples, différentes cultures, et où justement la théorie, des coutumes des fois qui étaient déroutantes pour les occidentaux. Face à ces découvertes, il y a une espèce de volonté de hiérarchiser ou de déterminer des caractéristiques par rapport à l'appartenance ethnique, etc. Donc on peut se dire qu'aujourd'hui ça c'est révolu, mais moi j'ai découvert en faisant un petit peu de recherche que pas plus tard qu'en 1994, il y a un ouvrage qui s'appelle The Bell Curve, la courbe en cloche, traduction adaptée, hein. Par deux Américains, Charles Murray et Richard Herrnstein.
Mais ça, c'est un grand classique, ça, du débat sur l'acquis, là.
Exactement, mais ce qui a porté un peu controverse dans cet ouvrage, c'est que ça remettait un petit peu au goût du jour le fait que des performances liées à l'intelligence et à la réussite dans la vie serait davantage liée à l'appartenance à une ethnie en particulier, à une race. Enfin, le mot race est déjà démodé de nos jours, mais c'était pas si longtemps, et ça a fait énormément de ça a fait couler beaucoup d'encre parce qu'il parlait de, donc c'est vraiment c'est le contexte américain, hein, il faut se dire ça. Donc il parlait des noirs et de leur performance, etc. Donc ça a fait couler beaucoup d'encre. Puis en lisant ça aujourd'hui, on se dit ah mince, c'était quand même il y a pas si longtemps, et c'est des
corrige-moi si j'ai tort, mais je pensais que la thèse principale de The Bell Curve c'était simplement que les gens très intelligents ont tendance à épouser ou se mettre en ménage avec d'autres gens qui sont également très intelligents, ce qui veut dire qu'ils, théoriquement, selon ce livre-là, ils auraient des enfants très intelligents aussi.
De ce que j'ai lu, c'est peut-être tout à fait, ça parle peut-être de ça, mais ça c'est peut-être la partie sociologique qui était peut-être moins, qui a moins fait débat, mais il y avait quand même quelque chose qui sous-tendait l'argument principal de ce livre, qui était donc le fait que ce serait moins l'environnement et les facteurs socio-économiques qui pourraient avoir une influence sur les enfants, leur performance à l'école par exemple. Donc voilà. Et sinon, à l'inverse, par rapport au mouvement de l'acquis, en Europe du moins, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu tout un mouvement qui justement rejetait en bloc tout ce qui pouvait être de près ou de loin associé à tout ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'idéologie raciste du régime hitlérien, etc. Donc on assista donc à un retour de l'acquis, et ces théoriciens qui affirmaient que l'homme était un pur produit de son environnement et de lui seul. Il y a même eu un psychologue, monsieur Skinner, qui assurait qu'il pouvait faire de n'importe qui un médecin ou un musicien à partir du moment où cette personne pourrait bénéficier d'un encadrement prédéterminé par lui. Donc ça aussi ça fait débat. Mais en fait, il y a eu deux chercheurs français dans les années fin des années 90 qui ont observé justement des enfants qui ont été adoptés tardivement par des parents d'une classe sociale plus élevée, mmh. et qui du coup arrivaient à mieux réussir à l'école. Donc ils prouvaient du coup que le milieu social revêt une grande importance par rapport aussi aux valeurs, parce que là c'est vrai que on a l'intelligence pure et puis on a la valeur du travail, encourager les enfants à travailler, etc. Donc je sais pas si
donc ce serait dans le ce serait de un point au niveau de l'acquis.
Ouais,
d'accord.
Voilà, donc et en fait c'est le genre de débat où plus on fait des recherches et plus on réalise à quel point on n'en sait pas, on en sait peu, et donc ça arrive un peu à une fausse conclusion qui dit en fait que les frontières sont très floues finalement entre l'inné et l'acquis. Parce qu'on dit qu'en général, par exemple, un caractère inné est contrôlé par un gène, mais il peut aussi être lié à des facteurs qui sont liés à l'environnement biologique et biochimique rencontré par le fœtus, par exemple, pendant la grossesse. Donc un exemple très direct, c'est l'abus d'alcool par la mère. Et aussi, un trait peut avoir une composante génétique, mais être aussi influencé par l'environnement, ne serait-ce que la pigmentation de la peau humaine, donc qui ont bien entendu contrôlé à la base par des facteurs génétiques, mais qui dépend du degré d'exposition, évidemment, aux rayons UV. Donc on arrive, en fait, aujourd'hui, c'est le débat, il y a des gens qui affirment que c'est un débat qui est un peu mort. Mais on a, ça ne veut pas dire que les questions, elles le sont. Donc, on a toujours des questions bien, bien centrales. Et je pense que ça nous affecte un petit peu tous, parce qu'on se pose tous un peu la question à quel point est-ce qu'on est pré-programmé, prédéterminé, à quel
ouais,
point.
C'est ça. Ouais. Tu vois. Est-ce que ce que je suis devenu, c'était déjà forcément mm-hmm. ça quand je suis né.
Exact.
Ou pas quoi.
Exact. Donc en fait, moi, je vais juste conclure par une théorie que j'ai lue qui paraissait assez intéressante, qui disait en fait que la culture peut être pensée comme la finalité et l'avenir de la nature. C'est-à-dire que la nature est conçue comme un ensemble de ressources matérielles et comme un réservoir d'énergie, par exemple. Mais qui se caractérise par une indétermination, et que donc la culture elle a comme une activité qui va consister à employer ces ressources et ces énergies et aller donc à leur donner une détermination, c'est-à-dire une signification finalement, et donc que la nature est cultivée, c'est-à-dire travaillée, mise en forme. Et donc voilà, donc ça me rappelle moi un petit peu les certains sujets de bac philo. Est-ce que la culture est contre nature? Est-ce que la nature peut être cultivée? Donc voilà.
Voilà, puis des questions un peu philosophiques, mais on suppose que ça a des répercussions sur la politique, par exemple.
Oui, tout à fait.
Donc c'est quand même des sujets qui sont un peu peut-être pas au cœur de l'actualité, mais qui sont quand même assez importantes dans la vie quotidienne, quoi.
Oui, et puis elles sont fondamentales, parce que, enfin, je pense qu'on a tous, à différents moments de notre vie, on commence à se poser des questions, parce qu'à la base, enfin, ce dont j'ai parlé, je tiens à le préciser, c'est, il faut quand même le dire, que c'est un peu au cœur de la pensée occidentale en général. Donc, les différentes cultures se posent pas forcément des questions d'opposition de nature et culture. Par exemple, je pense que toute la question de l'individualité, du libre arbitre, ça vient de là. Est-ce qu'on peut sortir des conditions naturelles pour arriver à autre chose? Donc c'est une question bien centrale dans la pensée occidentale, et je pense qu'elle est toujours finalement un petit peu d'actualité.
Ben, merci beaucoup Gaëlle.
Je vous en prie.
C'était une très belle chronique.
Merci.
Et puis ça a fait une belle ouverture un peu philosophique sur notre thème. On va faire une petite pause musique. Alors j'ai oublié de vous dire l'album qu'on a passé tout à l'heure. Donc c'était Les Rasoirs Électriques avec la chanson Entre David Guetta et Oncle Ben. Voilà, désolé pour ceux qui attendaient le nom de la chanson. Et là on va enchaîner tout de suite avec Dans ma secte de ZEP. ZEP, ça veut dire Zone d'expression populaire. À tout de suite sur CHUO.
Les donneurs de leçons seront plutôt mal reçus. Les jeux sont malvenus. Pour les faux culs, l'entrée défendue. Comme ça on évitera tout malentendu. Pas de restart, ni gourou dans ma tribu. Dans ma secte y'a que des inconnus, que des glandus, des bossus et des foutus. Des déglingos, des exclus, des mal conçus. Des incoups, qui j'tahaient les pieds nus. Des incoups, avec les cheveux crépus. Des rappeurs, qui kickent sur l'instru. Des révolutionnaires, obstinément têtus. Des cassos, comme t'en as jamais vu. Des types chelous, qui sortent de garde à vue. Du bruit et des odeurs, qui viennent de la rue. Et des slogans, de prolos, militants jamais vaincus.
Pas de connard dans ma secte, y'en a pas. Si t'es pas clean, t'es pas net, tu rentres pas. Pas de facho dans ma secte, y'en a pas. Si dans ta tête t'es à droite, tu rentres pas. Pas de connard dans ma secte, y'en a pas. Si t'es pas clean, t'es pas net, tu rentres pas. Pas de facho dans ma secte, y'en a pas. Si dans ta tête t'es à droite, tu rentres pas.
Je sais, je suis un peu sectaire. Un peu rigide, oui, un petit peu méfaire. Pas très sociable, non, un peu réfractaire. Mais les gros cons, impossible de m'y faire. Impossible de séparer le politique de l'intime. Le facho n'aura jamais mon estime. Mes ennemis, je les éduque en combattant. Et en leur parlant gentiment à la mi-temps. Si toi, être civilisation supérieure. Et toi, voir moi, sauvage inférieur. Si toi, être plus beau. Et toi, tout savoir. Si toi, être lumière. Et moi, petit barbare. Si toi, expliquez-moi. Pas mettre le chat d'or. Qu'il faut manger du porc. Et pas prier dehors. Si toi, condescendant, s'adresse à moi comme un clébard. Moi, donner à toi un coup dans la mâchoire.
Pas de connard dans ma secte, y'en a pas. Si t'es pas clean, t'es pas net, tu rentres pas. Pas de facho dans ma secte, y'en a pas. Si dans ta tête t'es à droite, tu rentres pas. Pas de connard dans ma secte, y'en a pas. Si t'es pas clean, t'es pas net, tu rentres pas. Pas de facho dans ma secte, y'en a pas. Si dans ta tête t'es à droite, tu rentres pas.
Dans ma secte, on a l'esprit critique. On déconstruit, on décortique. Au discours dominant, ma clique est allergique. Si t'es contaminé, mec, tu restes au portique. Mais attention à toi. Message aux humanistes, si t'es à gauche avec l'esprit colonialiste. Si tu regardes le monde avec un œil paternaliste, mec, toi aussi tu seras rayé de malice. Si la porte est fermée, au cerveau étriqué. Si tu la joues solo, ailleurs tu m'envoies désolé. Dans ma secte, on la joue collective, altruiste. On est tous locomotives, solidaires. On pense pas qu'à sa bobine. Discipline d'un soldat moudjahidine. Et même comme ici sur un rythme ragamuffin. Dans ma secte, on crie t'as les falafines.
Pas de connard dans ma secte, y'en a pas. Si t'es pas clean, t'es pas net, tu rentres pas. Pas de facho dans ma secte, y'en a pas. Si dans ta tête t'es à droite, tu rentres pas. Pas de connard dans ma secte, y'en a pas. Si t'es pas clean, t'es pas net, tu rentres pas. Pas de facho dans ma secte, y'en a pas. Si dans ta tête t'es à droite, tu rentres pas. Pas de connard dans ma secte, y'en a pas. Si t'es pas clean, t'es pas net, tu rentres pas. Pas de facho dans ma secte, y'en a pas. Si dans ta tête t'es à droite, tu rentres pas. Pas de connard dans ma secte, y'en a pas. Si t'es pas clean, t'es pas net, tu rentres pas. Pas de facho dans ma secte, y'en a pas. Si dans ta tête t'es à droite, tu rentres pas.
J'ai dit tu rentres pas.
Zone d'expression populaire dans ma secte à l'instant sur CHUO. Marianne, c'est à toi.
Alors merci JB. Toujours dans notre thématique nature et plein air, mais je vais vous présenter la deuxième partie de ma chronique sur le camping. Alors hier, je vous ai parlé du Noël du campeur et puis lundi, Dutukakis vous a parlé de survie en forêt. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui devrait plaire à tous les campeurs qui aiment manger. Alors, la gastronomie de feu de camp ou, si on veut, les différentes façons de faire cuire sa nourriture sur un feu de camp. Je vais commencer avec les classiques. Alors, évidemment, si vous avez déjà fait du camping, vous connaissez déjà les différents aliments classiques que l'on peut faire griller sur un feu de camp. Évidemment, l'image un peu cliché, si on veut, c'est la guimauve que l'on fait dorer sur la braise à l'aide d'un pic ou d'une branche. Mais il y a aussi le fameux s'mores. Alors, est-ce que vous connaissez ça, les gars?
Non, ça non.
Pas du tout. C'est anglais comme mot, non?
Oui, c'est assez anglo-américain. C'est un autre classique qu'on fait avec la guimauve. C'est une espèce de sandwich qu'on fait avec... on va placer les guimauves entre deux biscuits Graham sur lesquels on a placé des morceaux de chocolat. Et puis la guimauve grillée va faire fondre le chocolat. Donc ça, c'est le s'mores. Mmh. Puis, une autre variante de recette à guimauve, c'est le banana boat ou le bateau banane. Alors, dans ce cas-là, on va placer des pépites de chocolat et des guimauves sur une banane coupée en deux dans le sens de la longueur. Puis, on va placer le tout dans du papier d'aluminium, puis on va laisser griller sur le feu. Donc, on a une espèce de sandwich au chocolat guimauve.
Tu mets de la guimauve et du chocolat?
Ouais. C'est très sucré. Okay.
Je connaissais quelque chose qui ressemble, mais il n'y a pas la guimauve.
Il n'y a pas la guimauve.
C'est juste, mais ça doit être plus français comme truc. Enfin, je sais pas. C'est juste, tu prends une tablette de chocolat, tu coupes quelques carrés, tu les glisses dans, enfin, tu fais une fente dans la banane, tu les glisses mais avec toujours la peau de la banane.
Ok.
Tu la mets dans du papier alu, tu la mets sur le bord du feu dans les braises.
Faut pas que ce soit trop chaud, sinon ça brûle.
C'est exactement ça. Braises, ouais. C'est exactement
et
ça.
Tu la mets sur le côté, et puis après tu sors, t'enlèves la peau et tu manges tout l'intérieur.
Ouais. C'est exactement c'est ça, bon. Sauf que tu rajoutes des guimauves en plus. Donc.
Voilà, un petit peu plus de sucre, c'est bon pour le diabète.
C'est ça, c'est exactement ça. Sinon, ben un autre classique là, donc ça c'est une image qu'on a un peu en tête quand on s'imagine un feu de camp du camping, ben c'est le hot dog, la saucisse à hot dog qu'on fait griller sur le feu à l'aide d'une branche là ou de façon plus réaliste au-dessus d'un grill. Puis finalement, il y a un autre succès instantané lors des soirées autour du feu de camp. Puis ça c'est le popcorn, le maïs soufflé. Là, je parle pas ici des enveloppes de popcorn, mais bien du fameux maïs soufflé de type Jiffy Pop, là. Pardonnez-moi l'usage de la marque de commerce. C'est une sorte de popcorn qu'on utilise moins aujourd'hui, qui était vraiment plus populaire avant l'invention du popcorn micro-ondes en enveloppe. Donc, un popcorn qui remonte plus, je dirais, aux années 60. Ça vient dans une espèce de petite casserole jetable en aluminium qu'on place au-dessus d'une cuisinière ou, dans ce cas-ci, ben, on la met au-dessus du feu pour faire éclater le maïs. Mais tout ça, c'est pas très original. C'est sans doute des choses que nos auditeurs ou en tout cas tous les campeurs qui nous écoutent savent déjà faire. Par contre, il y a toutes sortes d'autres choses qu'on peut faire griller ou faire cuire au-dessus d'un feu de camp.
Des pâtes.
Moi, j'ai déjà fait un lapin.
Ah, tu vois, ça, c'est original.
Il y a genre lapin et tout, on l'avait dépecé et tout, c'était...
C'était bon?
Ben, ouais.
C'était pour manger, finalement.
C'était pour manger, donc c'est pas très facile à cuire et tout, parce que... Faut le découper en même temps que le cuir, tout ça. Mais, voilà. Mais c'était pas, enfin c'était original en tout cas.
Est-ce que t'as posé ton collet toi-même pour attraper le lapin?
Non, en fait, c'était un lapin d'élevage qu'on avait récupéré comme ça. Puis le lapin sauvage, je pense que je sais pas.
Mais le lièvre.
Oh, remarque.
Ouais.
Ouais.
Vous pouvez manger un ours aussi.
Mais alors c'est vraiment long à cuire, hein, je pense. Non.
Disons qu'il y en a un peu beaucoup à manger en fait. Après, ouais. On est un peu bedonné quand on finit.
Puis bon, pour chasser l'ours.
Ouais, c'est un peu plus compliqué que de poser un collet à lapin.
Je suis pas sûr que les gardiens du parc dans lequel on fait du camping soient très très fans.
Non plus.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, justement?
On va commencer avec des recettes de base, là, le petit déjeuner. Donc, rien de tel que de faire des toasts sur le feu. Ça, c'est une recette qui est facile. Des toasts, des rôtis.
Oui, ça va. Une poêle, alors? Ou quelque chose?
Même pas. T'as juste besoin d'une espèce de petit rack fait spécifiquement pour le pain. Donc, pour la forme du pain qu'on place sur le feu.
Donc, tranquille, quand tu fais un camping, tu viens avec ton petit rack pour ça, tu viens avec ta grille pour le hot dog.
Exactement. Puis, on peut retourner les tranches de pain à sa grille. Ça s'appelle un grille-pain de camping, finalement.
D'accord.
Ce qui est bien avec ça, c'est que ça goûte vraiment différent, je trouve, les toasts grillés sur le feu comme
ça. Parce qu'ils ont l'odeur, etc.
Ouais, ça goûte vraiment comme le goût de la fumée qu'il y a des toasts qu'on ferait chez soi dans un grille-pain. On peut aussi faire des crêpes. Cette fois-ci, à l'aide d'une poêle à frire, d'une boîte de mélange à crêpes, un peu de beurre et du sirop. Très important, par exemple, il faut utiliser du vrai sirop et non du sirop de poteau. Savez-vous pourquoi?
Alors, en fait, moi, français, je ne sais pas ce que c'est le sirop de poteau.
Le sirop de poteau, c'est un faux sirop d'érable qui ne vient pas d'un érable. On appelle ça un sirop de poteau parce qu'au lieu de venir d'un érable, c'est comme si ça venait d'un poteau de téléphone.
C'est synthétique,
c'est
en fait.
C'est peut-être le sirop d'érable qui existe en France, quoi.
Ouais, c'est peut-être bien
c'est
ça.
C'est du faux sirop, quoi.
Ouais, c'est du sirop de
alors,
crêpe.
Alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait du vrai sirop?
Parce que c'est pas bon, le sirop de poteau. Tout simplement.
OK.
Donc, et ça va aussi pour les crêpes faites à la maison. C'est très important d'utiliser du vrai sirop d'érable. Alors, pour accompagner son petit déjeuner, on peut aussi faire du café sur le feu. Il y a différentes méthodes, différentes recettes. Donc, la plus facile, c'est simplement de faire bouillir de l'eau sur le feu à l'aide d'une casserole. Puis lorsque l'eau est bouillie, on ajoute directement le café moulu dans l'eau, puis on laisse refroidir. Alors évidemment, ça veut dire qu'on aura du café avec des grains à l'intérieur, donc c'est pas personnellement, je trouve que c'est pas très bon.
Pas filtré ou?
Non, c'est ça, c'est pas filtré. Donc, ouais. Mais ce qui est mieux, c'est vraiment c'est de s'amener un petit filtre à café en plastique. Alors on peut les acheter au supermarché ou dans un magasin à rayon pour pas cher. Alors cette fois-ci, on fait bouillir l'eau. On met le café moulu dans le filtre. On place le filtre au-dessus de la tasse et on verse l'eau dans le filtre. On peut réutiliser le filtre aussi longtemps qu'on, aussi souvent qu'on veut. Donc, c'est vraiment meilleur pour l'environnement, par exemple, qu'un filtre papier.
Bien qu'un filtre papier soit compostable.
Oui, mais en camping...
ouais, c'est toujours des déchets, tout ça.
C'est ça, ouais.
Tu peux pas composter en camping. Parce que tu restes pas 3 mois.
Ouais, tu peux pas.
Tu peux pas
retourner la Terre.
Voilà, ouais, mince.
Puis, ben, si vous préférez, on peut aussi faire du thé pour aller avec son déjeuner. Donc, on fait bouillir l'eau, on verse dans une tasse, on met un sachet, puis on laisse infuser. Alors ici, rien de bien compliqué, là. Tout le monde me suit.
Ouais.
Ouais, OK.
Là, tu vas lancer la recette de l'espace du camping.
Pas tout de suite. Alors, si on veut manger autre chose qu'un déjeuner, ben, ce qui est vraiment facile, là, c'est ce que tout le monde fait, c'est faire cuire sa viande sur le grill, comme par exemple des brochettes qu'on peut retourner, ou sinon du poisson frais aussi. Pourquoi pas du poisson qu'on aurait pêché un peu plus tôt. Mmh. Puis pour le poisson, on peut aussi, il y a comme des racks spécifiques au poisson, pour le poisson qu'on peut acheter pour permettre de retourner le poisson. Ou sinon, on peut aussi le faire mariner, l'enduire, par exemple, d'une vinaigrette italienne, puis l'envelopper dans le papier d'aluminium et le placer contre le feu. Alors, le papier d'aluminium, c'est vraiment votre meilleur ami lorsque vous faites du camping, parce qu'on peut vraiment tout faire cuire avec du papier d'aluminium. Ça fonctionne très bien aussi, par exemple, pour les légumes, ou si on veut faire des pommes de terre qu'on place contre la braise, là, des pommes de terre enroulées dans le papier d'aluminium, ben, ça fait vraiment des très bonnes patates en robe de champ.
Et petite remarque, avec du papier alu, tu peux même fabriquer un barbecue sans feu, avec le soleil.
Oui, mais ça prend combien de temps?
C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué à faire. Mais si tu arrives à le mettre bien de façon à ce que tu puisses, à ce que tous les rayons du soleil arrivent à peu près au même endroit, à l'endroit au milieu, en fait, tu vas pouvoir chauffer ta bouffe.
Ouais, ça se fait des fois avec des épis de maïs. Ouais.
Mais c'est un peu compliqué à faire. Ouais. Donc c'est mieux le
faut
barbecue.
Être un peu passion, quoi.
Mais tu vois, avec le feu, c'est que t'as le goût du feu de camp qui est quand même.
Et là, t'as le goût du soleil.
Ouais. Ah, ah.
Il y a un goût très particulier, le soleil.
Ou sinon, comme je disais, on peut utiliser le papier d'aluminium pour faire cuire ses légumes, là, que ce soit des petites fèves, des légumes sautés, des épis de maïs. Alors, ne partez jamais camper sans votre rouleau de papier aluminium. Mais là, tous ces exemples-là que j'ai donnés, ben, c'est vraiment la base de la cuisine en camping. Je pense pas que je vous ai appris des choses qui sont vraiment nouvelles pour vous. Mais en fouillant sur Internet, j'ai trouvé toutes sortes de recettes pour feu de camp qui sont vraiment le plus originales. On peut faire toutes sortes de choses. Les plus populaires que j'ai trouvées, c'était le chili à l'aide d'une casserole qu'on place au-dessus du feu. Les quesadillas à l'aide d'une poêle à frire qu'on place sur le feu. Puis toutes sortes de sandwichs faits avec des tortillas qu'on peut aussi faire griller sur le feu. Là. Donc des tortillas avec du fromage à l'intérieur. Ça se mange très bien.
Quand tu dis le chili, ça veut dire que tu le prépares toi-même? Parce que pour moi, le chili, c'est la boîte de conserve et hop, tu l'as fait réchauffer dans le feu.
Ouais, non, tu peux le faire toi-même. Là. Tu le fais toi-même au-dessus du feu. Ouais. Ou tu peux t'amener une boîte de conserve de chili, mais je suis sûre que c'est beaucoup moins bon.
Ah bah forcément.
Forcément,
ouais. Ouais. Mais il y a vraiment une recette là qui m'a intriguée. J'ai décidé de vous la présenter aujourd'hui. C'est vraiment là, on peut faire cuire des muffins sur le feu.
En exclusivité totale sur CHUO, on peut faire cuire des muffins sur le feu de camp. Donc pour ça, il faut apporter un 15e ingrédient.
Il faut apporter
ton four de camping. Qui est une boîte de 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Non, c'est ça, non?
En fait, c'est vraiment simple. J'étais vraiment... moi, je la connaissais pas, cette recette-là. Vas-y. Ça semble être assez populaire. Puis, je trouvais que c'était vraiment original et facile aussi. Je sais pas si ça fonctionne si bien que ça, par contre.
Ouais.
Alors, on a besoin de 6 oranges et une boîte de mélange à muffins de 14 onces. La recette suggère des muffins au bleuet, peut-être parce que le goût se marie bien avec les oranges. Des muffins de votre choix là. J'aime bien les muffins aux bananes personnellement.
Laisse-moi deviner, tu vas utiliser les oranges comme plat pour faire cuire les muffins.
Ah, il voit tout, il sait tout.
Donc, et ça évite d'avoir, en plus de la poêle qu'on a déjà pris pour faire les crêpes, le grill qu'on a pris pour faire le hot dog, le grill spécial à poisson qu'on a pris pour les poissons, et le toaster à pain.
Ouais.
Donc déjà,
et
le filtre à café. Donc déjà là normalement on n'a plus de place dans les bagages. Donc là on va pouvoir juste avec des oranges faire les muffins.
Alors vas-y,
finalement c'est une bonne recette.
Ouais, et puis en plus bah, tu peux manger les oranges. Donc déjà là c'est plaisant.
Et comment ça marche alors? Parce que pour faire un plat avec une orange, c'est quand même pas évident.
Mais tu prends ton orange, tu la coupes en deux.
C'est ma recette là. Donc, comme je vous disais, on coupe les oranges en deux pour en extraire la chair. On s'assure de ne pas briser la pelure parce que, comme on a dit, c'est ça qui va nous servir de moule à muffins. Puis là, on peut manger la chair d'orange ou tout simplement la conserver pour plus tard. La recette suggérait de faire une salade de fruits avec. On prépare le mélange à muffins selon les indications sur la boîte. On verse le mélange dans nos 6 moules en pelure en s'assurant de ne les remplir qu'à moitié. On enrobe le tout vigoureusement de papier aluminium et on place contre la braise. Là, on s'assure que c'est bien la pelure qui est au sol et la pâte qui est vers le haut. Puis on laisse cuire de 5 à 10 minutes ou jusqu'à ce que les muffins soient prêts.
Donc il faut enrober complètement le...
Ouais, le tout de papier aluminium.
Donc c'est pour ça qu'il faut mettre que la moitié de l'orange pour que quand il gonfle, il déborde pas du papier alu.
C'est ça. Ouais.
Merci pour cette recette, c'est ouais, super ouais, recette. Du coup, je vais essayer la prochaine fois.
Ouais. Ça donne envie.
Ouais, ouais ça donne
ça
envie.
Ça fait des muffins qui sont un peu plus petits de ce qu'on a l'habitude.
Ouais.
Parce qu'ils font, ils sont juste. En fait, une fois qu'ils ont gonflé, ils arrivent en haut de l'orange, c'est ça?
J'imagine.
En haut de la moitié.
J'imagine.
On testera.
Super idée.
Ouais. Alors, c'est une recette que j'ai pas essayée encore, mais moi, je trouvais que ça avait l'air délicieux. J'ai vu aussi des recettes semblables de brownies aussi qu'on peut faire cuire dans des pelures d'orange à partir d'un mélange. Alors, si vous préférez les brownies, c'est aussi une possibilité. Puis, si vous l'avez déjà fait, si vous avez déjà essayé cette recette-là, ben vous pouvez nous dire votre avis sur notre page Facebook. Je sais pas si ceci vous a mis en appétit. Si oui, j'ai d'autres recettes. La chaîne de terrain de camping Koa ont toute une liste sur leur site web. C'est en anglais seulement, mais je vais quand même vous donner l'adresse pour toutes les idées de recettes de camping.
On postera donc, l'adresse sur Facebook aussi.
Oui, donc c'est koa.com, donc koa.com. Puis, en terminant, ben, peut-être quelques conseils de sécurité élémentaire, quelques consignes. Alors, avant de faire un feu, ben, on s'assure que c'est permis par le terrain de camping, puis on s'assure qu'il n'y a pas d'avis de sécheresse ou de danger de feu de forêt qui nous avise de ne pas faire de feu de camp. On fait toujours le feu dans l'endroit désigné sur le lot, donc le foyer, si on veut, du terrain. On fait toujours le feu loin de sa tente, de son abri, des arbres et de la broussaille. On garde le feu sous contrôle, donc pas de flammes monstres. On ne coupe pas d'arbres vivants ou de branches venant d'arbres vivants pour alimenter le feu, s'il vous plaît. On se tient à distance du feu, on fait attention aux étincelles, on surveille les enfants et les animaux de compagnie. On garde toujours de l'eau tout près pour éteindre le feu en cas d'urgence. Puis, on s'assure de bien éteindre le feu quand on a fini. On ne laisse jamais le feu sans surveillance. Alors, c'est ça. Puis, finalement, j'aimerais préciser que moi, je cuisine pas beaucoup, donc c'est pas moi qui ai eu l'idée de cette chronique-là aujourd'hui. Le sujet est une suggestion de Catherine et je la remercie. Donc, bon camping et bon appétit à tous.
Ça donne un appétit. Merci, Marianne.
Ça donne envie de faire du camping.
Denis, je crois que tu avais une petite annonce à nous dire.
Alors, il est déjà... dans 5 minutes, ce sera mes derniers mots à la radio de CHUO parce qu'en fait, je m'en vais, je retourne en France dans un mois, mais je quitte Ottawa dans lundi. Et donc j'ai fait deux mois et demi à CHUO dans les matinales avec vous. Et j'ai vraiment adoré, donc je tiens à remercier Marianne. Je tiens à remercier Dukakis, je tiens à remercier JB, si présent, qui m'a mis le doigt dans l'engrenage. J'ai vraiment adoré faire toutes ces émissions. Il y a aussi Emmanuel et Karine, qui sont les programmeurs de la radio. Et c'est CHUO, c'est vraiment une radio géniale. Il y a plein de gens adorables quand on y va. C'est du punch, c'est de la jeunesse de partout. C'est des gens qui ont la joie de vivre. Et enfin voilà, quoi. Et chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. J'ai adoré faire tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas, continuez à écouter CHUO, il y a presque que des volontaires qui font ça, on n'est pas professionnels, on fait toujours les chroniques au dernier moment, mais j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir.
Toi.
Oui, enfin moi je fais souvent mes chroniques au dernier moment, mais j'ai adoré, voilà. N'hésitez pas à venir à CHUO, ils ont toujours besoin de volontaires pour faire des chroniques, même aux missions du matin, moi je m'en vais, il y aura d'autres gens qui vont me remplacer, j'espère. Et voilà, et donc... Et donc j'avais décidé de vous passer une petite chanson que j'ai choisie, parce que d'habitude c'est JB qui l'a choisie, mais là comme c'est la dernière fois, c'est l'artiste s'appelle Adelbert, il est français, et la chanson s'appelle La méthode couette, parce que ceux qui me connaissent savent que j'aime bien dormir, et donc c'est une philosophie qui me convient bien. Voilà, allez c'est parti, et je sais pas si on dit à demain, ouais, il nous restera un peu de temps, en avant.
L'oiseau oisif que je suis a fait de son lit le nid. J'annonce aux feignants fidèles la bonne nouvelle. Elle est tombée d'une branche hier comme un fruit. Il est né le divin divan, débranché les réveils. Moi qui croyais comme tout le monde que le travail c'est la santé, je milite aujourd'hui au parti du moindre effort. Je crie liberté farniente, immobilité. J'ai remplacé le poil de ma main par un sycomore pour vivre heureux. Vivons couchés sur le dos, allongés, prolongés. Cloués aux pieux par le poids du bois qui pousse dans ma paume, je donne des signes extérieurs de paresse. En repoussant toujours tout au long de ma, je chante et je chôme. J'applique à la lettre la méthode couette à Dijon où j'avais mené la guerre à la flemme. Je mets entendre l'adjudant hurler dans les oreilles. Oh, oh. Dis-moi passer dans une base aérienne pour apprendre à faire un hamac avec le drapeau. Pour vivre heureux, vivons couchés sur le dos, allongés, méditer. Quand malgré tout j'arrive encore à me lever, à faire un dernier effort pour aller travailler, le dieu des songes, fils du sommeil et de la nuit, se penche à mon oreille et me dit:
c'est moi Morphée, ton mentor attitré. À toi le descendant du bienheureux Alexandre. Je suis descendu des cieux pour te mettre la puce à l'oreiller, car tout vient à point à qui sait se détendre.
C'est vrai, j'ai vécu longtemps comme un mouton dans la honte, à ne pas produire assez, à me laisser aller. Mais aujourd'hui les moutons, c'est moi qui les compte, et les stacanovistes, je les laisse râler. Pour vivre heureux, vivons couchés sur le dos, allongés, prolongés. Pour vivre heureux, vivons couchés sur le dos, allongés, l'apogée.
Et voilà, on arrive à la fin de l'émission du matin, du mercredi. L'émission du matin, c'est tous les matins de 7h à 9h.
Et donc on a un tic-tac qui sonne.
C'est parce que j'ai pas arrêté le player. C'est tous les matins du lundi au mercredi de 7h à 9h. Donc écoutez-nous, ça nous fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi nous retrouver sur la page Facebook. Et maintenant il est temps de se dire au revoir.
Denis, peut-être
on
question.
On va enchaîner sur... Oui.
Est-ce que tu continueras de nous écouter une fois que tu seras parti?
Je pense, ouais. Alors c'est un peu compliqué parce que je serai au milieu des parcs de l'Alberta en train de faire de la randonnée. Mais si on a la radio, bah, je crois pas que l'antenne diffuse jusqu'à là-bas, hein. Malheureusement, on n'est pas encore assez riche. Hein.
Je pense pas, non.
J'ai récupéré les podcasts, etc. Et bien sûr, je continue.
Les balados.
Les balados-diffusions, pardon.
Ils sont disponibles. La balado-diffusion ou les balados. Petit conseil linguistique. Balado, c'est le terme pour dire une émission. Et la balado-diffusion, c'est le terme général pour dire l'ensemble du système.
Donc, en gros, j'écouterai la balado-diffusion.
C'est podcasting en anglais. Et balado, c'est podcast.
Ah. Enfin ouais, non, c'est sûr, je continuerai à vous écouter, c'est sûr.
Voilà. La balade de diffusion qui est donc disponible sur internet, sur iTunes ou sur lmdm.podomatic.com.
Exactement. Puis Ottawa, c'est une ville super. Alors, auditeurs, auditrices, soyez heureux dans votre vie, bougez, sortez, il y a plein de festivals ici, c'est l'été. Et puis même l'hiver, enfin, continuez à être heureux, c'est important quoi dans la vie tout ça. Rigoler. Voilà. Et donc
et
bon, pour finir
aussi.
Dormez aussi, c'est important aussi. on va enchaîner sur la rediffusion de l'émission d'hier, le lancer du disque. Et voilà, donc on vous souhaite à tous une bonne journée. Et passez une bonne journée. Et puis donc,
à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Puis moi je vous dis à bientôt.
Merci Denis. On enchaîne donc sur
le lancer du disque.